Cet épisode vous est proposé dans le cadre d'une sélection spéciale anniversaire des Pieds sur Terre. Les Pieds sur Terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Y a-t-il une façon d'avoir des relations sexuelles qui soient moralement meilleures qu'une autre ? L'État peut-il juger, par exemple, qu'il est préférable de faire l'amour gratuitement plutôt que de payer pour avoir un rapport sexuel ? Pénaliser les clients qui achètent des services sexuels, sans compter que cela revient à laisser des personnes libres de vendre des services qu'il est interdit d'acheter, c'est aussi supposer qu'il n'est pas moralement acceptable de payer pour avoir du sexe. En payant pour obtenir un rapport sexuel, le client prostituteur impose sa volonté au mépris de l'autre et de son désir. C'est le premier argument énoncé par le collectif Abolition en 2012, qui poursuit en expliquant, je cite, « parce que tout acte sexuel non désiré constitue une violence, parce qu'en plaçant le corps humain dans le champ du marché, la prostitution porte atteinte au principe fondamental de respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et psychique. » Mais ce n'est pas tout. Pour ceux qu'on appelle les abolitionnistes et qui ont inspiré la loi sur la pénalisation des clients, il y a dans la prostitution un enjeu lié à la domination masculine. Elle représenterait une violence inscrite dans la longue histoire de cette domination masculine, une exploitation de toutes les inégalités, un obstacle fondamental à l'égalité entre les hommes et les femmes. On essaiera de garder ces arguments à l'esprit en écoutant tout de suite les histoires que nous propose Pauline Verdusier. Car il s'agit bien d'acheter des services sexuels, mais celles qui payent aujourd'hui, ce sont les femmes. Et ceux qui font le job, qui sacrifient ou pas la dignité et l'intégrité de leur personne, ce sont des hommes, des escortes, des travailleurs du sexe, des masseurs, des prostituées, appelez-les comme vous voulez. Faut-il donc punir ses clientes, interdire l'activité des hommes qu'elles rémunèrent ou au contraire banaliser l'achat de services sexuels, à moins qu'il ne faille encore interdire la prostitution féminine tout en développant le travail du sexe des hommes? Trois histoires pour y réfléchir.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Nathalie, j'ai 50 ans, j'ai deux enfants, j'habite dans la région bruxelloise et je suis agent immobilier. Je me suis séparée en l'an 2000, donc il y a 19 ans. Mes enfants étaient alors très jeunes. J'ai très très mal vécu la séparation, ce qui m'a fait perdre confiance en moi. Donc à l'époque de mon divorce, donc il y a 19 ans, j'ai envisagé de faire appel à un escorte. Donc c'était très rapidement après ma séparation et c'est arrivé pour simplement être accompagnée à la sortie de l'école. Ça peut sembler ridicule, mais le fait d'avoir été quittée encore jeune avec des enfants en bas âge, vous avez posé sur vous un regard des autres parents et surtout des autres mamans et des autres femmes, un regard douloureux. Et franchement, si j'avais pu, et je le dis avec tout mon cœur, encore aujourd'hui, si j'avais pu payer quelqu'un pour m'accompagner à la sortie de l'école, pour m'accompagner aux communions, pour m'accompagner au mariage, pour m'accompagner à toutes les étapes de ma vie, je l'aurais fait. Mais à 32 ans, j'avais facilement du succès avec des hommes qui me plaisaient aussi. Je rencontrais très facilement des hommes avec qui j'avais une intimité qui me convenait et qui me plaisait. Je n'avais pas encore été blessée fortement par des hommes à cette époque-là. Donc ce n'est que plus tard, quand j'ai eu des mauvaises expériences, d'hommes qui abusaient de la situation ou d'hommes qui étaient maladroits, quand je me suis rendu compte aussi que peu d'hommes savaient y faire pour l'intimité, que nombre d'entre eux étaient extrêmement égoïstes. Je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas payer quelqu'un dont c'est le métier, qui connaît mieux la femme que n'importe qui et qui va pouvoir peut-être me rassurer aussi plutôt que de me démolir. C'est suite à une discussion avec deux amis le 27 octobre 2018 que j'ai vraiment enclenché la démarche. En fait, c'est donc après une partie de golf, on a simplement pris un thé et une des deux personnes qui m'accompagnait, que je connais peu, a relaté une soirée entre amis de la semaine précédente, durant laquelle une des personnes présentes avait raconté à son groupe d'amis avoir fait appel à un escorte qui avait changé sa vie. La jeune femme qui a raconté cette histoire a cité le prénom de Charles en disant « voilà, il a un site, c'est un escorte ». Donc c'était extrêmement facile de le retrouver sur Internet. Je suis donc le soir même allée sur le site et puis le samedi 10 novembre, j'ai pris mon téléphone et je lui ai laissé un message. Un message genre « Bonjour Charles, je m'appelle Nathalie, j'ai entendu parler de vous, je me suis rendue sur votre site qui correspond exactement à mes attentes, j'aimerais pouvoir vous rencontrer, merci de me recontacter ». Et là, à mon grand étonnement, il me propose une date très proche. Donc j'ai quitté mon lieu de travail comme si je me rendais à un rendez-vous d'affaires. J'étais un petit peu inquiète de ne pas lui plaire. Inquiète qu'il refuse de s'occuper de moi et qu'il me dise « je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider ». Donc c'est dire à quel point les choses, la situation était grave, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est un peu tremblante que et un peu interrogative sur à quoi il allait ressembler que je me suis rendue dans le restaurant. Donc j'étais heureusement surprise quand je l'ai vu, un homme bien de sa personne, grand, mince, musclé, pas trop beau en fait, normal, vraiment une personne normale, une personne, c'était pas dans mes attentes parce qu'il portait la barbe, il avait des lunettes, mais je n'avais pas spécialement imaginé un mannequin de magazine, en fait j'avais rien imaginé, tellement ma démarche me dépassait. Donc je lui ai expliqué à quel point j'étais perdue, à quel point j'étais inquiète pour moi, à quel point je ne savais plus où j'en étais, à quel point je n'avais plus confiance en moi à aucun niveau, à quel point je pensais qu'il m'était devenu peut-être impossible de rencontrer quelqu'un, à quel point pour moi c'était catastrophique d'avoir 50 ans et de me retrouver toujours dans cette situation, à quel point j'étais désespérée, à quel point j'avais peur de faire l'amour avec quelqu'un, à quel point je ne savais plus rien en fait. Donc j'ai osé me livrer à cœur ouvert. J'ai eu en face de moi quelqu'un qui a su répondre à toutes mes interrogations. C'était extraordinaire au point que quand on est sorti, j'étais euphorisée un petit peu par le vin, mais aussi par la rencontre. Et donc quand il m'a serré dans ses bras à l'extérieur, j'en revenais pas. Enfin, c'était pour moi, c'était juste dingue. Donc je me disais, mais attends, donc il est en train d'accepter et tu vas le rencontrer vraiment. Je veux dire, il m'aurait dit qu'on pouvait se rencontrer dans l'intimité immédiatement. Je pense, j'acceptais. Je veux dire, j'avais pas besoin d'un délai de réflexion. Et donc, le second rendez-vous s'est organisé par mail. Nous avons convenu d'un hôtel. Je vous raconte même pas le sentiment quand il a fallu rentrer dans le hall de cet hôtel. Et en définitive, je me suis rendu compte que personne ne faisait attention à moi, personne ne s'interrogeait sur ma présence là, et personne ne me regardait comme si j'allais commettre le plus grand péché de la terre et la chose la plus horrible qui soit, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un pour de l'intimité dans un hôtel. Eh bien non. Et donc finalement, je me suis calmée, j'ai regardé mon téléphone, mes mails, et j'ai attendu le signal de Charles par texto qui me disait par où passer et dans quelle chambre me diriger. Et donc c'était bizarre mais excitant à la fois, puisque je me suis donc dirigée vers la chambre, j'ai frappé à la porte et il m'a ouvert la porte. Et il vous accueille de façon on ne peut plus naturelle. Et il vous regarde droit dans les yeux, il vous dit « ça va ?» Je dis « oui, je suis un petit peu tremblante, c'est un petit peu particulier » et puis il vous prend dans ses bras. Et là rien que parce qu'il vous prend dans ses bras, waouh, il y a tout le stress qui s'en va, il y a tout le Il va vous retirer votre montre, par exemple, ou il va... je veux dire, vous écoutez tellement ce qu'il dit, vous discutez avec lui, qu'à la limite, vous ne vous rendez même pas compte que les choses commencent. Et alors, il a une façon de vous déshabiller, qui est juste d'une discrétion, d'une finesse et d'un professionnalisme Je ne vais pas dire que je l'avais jamais connu, ça. Dans le feu de l'action, vous pouvez connaître quelqu'un qui vous déshabille avec beaucoup de finesse, mais c'est extrêmement rare. La majorité des hommes se déshabillent, attendent que vous vous déshabillez, et puis bon, and so what? Eh ben, franchement, il ferait bien d'y avoir des cours parce que ça change tout. Moi qui avais peur qu'il me trouve trop grosse et qui me trouve moche, eh bien, j'ai pas eu son regard sur moi. J'ai eu ses baisers, j'ai eu ses mains, mais j'ai pas eu son regard. Et donc, du coup, j'étais rassurée. Et puis, les choses s'enchaînent avec un naturel déconcertant. Je pensais, pour être honnête, que ma vie sexuelle était terminée. Je pensais que j'allais avoir des problèmes de sécheresse vaginale, que je n'y arriverais plus. Je ne sais pas le dire autrement. Et donc, je pense que des hommes comme Charles sont nécessaires à la santé publique et à l'équilibre de beaucoup de femmes. S'il n'y avait pas la question financière, je pense que je l'aurais peut-être vu plus tôt. Parce que le tarif de Charles est de 150 euros de l'heure, il est évident que il faut une certaine organisation et un certain potentiel financier pour pouvoir se permettre de le rencontrer. Et donc, j'envisage presque une rencontre mensuelle. Je dois y réfléchir. Finalement, la situation est en cours. Il y a 3 petits points derrière, mais que du positif.
Est-ce que vous en parlez autour de vous ?
Je n'en ai parlé à aucune amie. Parce que je pense que ça pourrait continuer encore très longtemps. Pour être tout à fait honnête, je pense que si un jour je tombe amoureuse de quelqu'un qui n'est peut-être pas très doué dans l'intimité, je continuerai à voir Charles malgré tout, parce que je pense que c'est pas grave de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, à 50 ans, j'ai décidé que c'est mon équilibre émotionnel qui prime avant tout. Alors, il m'arrive évidemment extrêmement souvent d'avoir envie d'en parler, simplement pour dire à une amie, mais tu sais, tu as une solution à ton problème, mais tu sais, si tu voulais, tu pourrais te sentir mieux dans ta peau. Mais tu sais, si tu voulais, tu ne pourrais pas être désemparée. Mais je ne suis pas encore au stade où j'ai envie de sacrifier mon intimité et mon bonheur pour aider quelqu'un. Peut-être un jour, dans quelques années, dans quelques mois, je ne sais pas. Quand ça sera bon, peut-être derrière moi que je serai bien, peut-être que j'aurai envie de dire à quelqu'un, mais tu sais, j'ai la solution pour toi.
Ok, donc je me présente en quelques mots. Donc Pascal, 53 ans, divorcé et actuellement au chômage. Mère de 2 enfants. J'ai été violée à l'âge de 12 ans, donc en 1978, par un voisin. C'est une violence qui est apparue et puis qui s'est installée parce que cet homme-là a trouvé son plaisir à me poursuivre matin et soir pendant 9 ans. Voilà. Donc j'ai découvert aussi la terreur, beaucoup de terreur. Et puis j'ai été violée une deuxième fois à l'âge de 17 ans, après avoir été droguée et endormie, et là par une femme. Donc le 30 juin dernier, je vais à une conférence et des ateliers sur le thème de la sortie de zone de confort. Et à l'occasion du premier atelier, dans des petits exercices de développement personnel, j'entends un homme parler que si effectivement on devait tous mourir ce soir, ce qu'il regretterait, ce serait pas de ne pas être allé au bout du projet professionnel qu'il portait à ce moment-là. Et que son objectif dans la vie, c'est de connecter les hommes et les femmes à leur corps, à leur sexualité, de les réconcilier. Et puis il dit que dans les massages qu'il prodigue, il ne nie pas son propre plaisir. Et bien en fin de compte, cet atelier se termine. Je vais le rencontrer. Je prends sur moi, parce que c'était vraiment pas évident. Donc il m'a dit, écoute, voilà, mon nom, mon prénom, contacte-moi. Et oui, il m'a dit qu'il avait le projet de développer une activité d'accompagnateur sexuel. Et voilà, et qu'on pourrait en discuter. Et donc moi, je l'ai contacté dans la semaine qui suivait. Et on a fait le premier massage le samedi suivant. On a commencé par discuter sur un canapé chez lui. Il m'a expliqué que durant tout le massage, de toute façon, j'avais toujours le droit de dire oui ou non à quoi que ce soit. Qu'il y avait 3 façons de terminer ce massage. soit ça s'arrêtait avec la main posée sur le sexe, soit il pouvait y avoir en plus, voilà, le massage des petites et des grandes lèvres. Et la troisième étape qui était possible, en fait, c'était un massage du vagin sur des points précis également. Et quand le massage est arrivé sur la fin et qu'il m'a demandé si j'étais toujours OK, donc j'ai dit oui, je voulais vraiment me réapproprier mon corps jusque par là où il avait été violé, c'est-à-dire mon vagin. Et c'était un viol digital que j'avais eu le premier. Donc voilà, de cette façon-là, c'est-à-dire que... On n'était pas dans le plaisir. Moi, j'ai trouvé ça assez chirurgical, d'ailleurs. Je lui ai dit, quand je lui ai dit plusieurs temps après, il m'a dit « Ah ouais ?» J'ai dit « Ouais, mais je dis, en même temps, j'avais vraiment du mal à me détendre et j'avais même des douleurs pelviennes parce que j'étais très, très tendue. » Et ça a duré, je crois, 1h30, un truc comme ça. Alors, à l'issue du premier massage, il m'avait dit « Mais ton désir a provoqué le mien. » Moi, tout ça, j'écoutais ça. Il me disait « Mais tu peux pas savoir comme t'es belle et tout. » Je me disais « Mais il se fout de moi, c'est complètement commercial. » D'ailleurs, ça, c'est des questions que je lui ai posées à plusieurs reprises. Même encore dernièrement, je lui dis « Ouais, mais j'en doute toujours. » Mais voilà. Et moi, j'avais du mal à croire qu'en étant grosse comme je le suis, etc., mon corps pouvait susciter du désir. Il me dit je te propose qu'on aille dans l'accompagnement sexuel. Je te propose aussi un tarif plus bas que celui que je voudrais pratiquer plus tard, parce que on va l'expérimenter et le construire ensemble. Voilà. Et donc ce deuxième massage, ben on l'a fait chez moi, celui-ci. Il m'avait dit ben si c'est bon pour toi, on pourra faire l'amour après. Donc il avait disposé des préservatifs, etc. Et puis, donc on a fait ce massage. Ce massage n'a pas toujours été tout à fait protocolaire. C'est là où on s'est embrassé pour la première fois. Et puis, à un moment, il m'a dit « Est-ce que c'est bon pour toi ?» Et on a fait l'amour. Mais avec une douceur pas possible, aucun... Voilà. Toujours en train de me dire « C'est bon, t'as pas mal, t'as pas... » Voilà, non, mais vraiment, vraiment un respect d'un autre monde. Hein. Je crois que j'avais jamais été respectée comme ça. Et c'est là où donc j'ai payé pour la première fois.
C'était combien ?
210, je crois. C'était dur. Hein. Je lui ai dit, c'est dur de payer pour faire l'amour. Et lui, il m'a dit, mais c'est super dur d'être payé pour faire l'amour. Voilà. Je me suis posé la question du côté dégradant qui pourrait exister. Alors que je regrette pas un instant, et à ce moment-là, j'ai pas regretté non plus. Mais il y avait quelque chose de la transaction, quoi. Et moi, j'ai été très étonnée, parce que, en fin de compte, à chaque fois, je me sentais très très bien après, mais vraiment. Et c'est dans les heures, voire dans la nuit, il y a eu des nuits où j'étais réveillée par des sanglots. J'étais réveillée parce que je pleurais en dormant. Et avec des incapacités à me rendormir et tout ça, j'étais toujours été très, très étonnée de ces réactions de tristesse intense qui sont venues, qui se sont libérées en fin de compte avec tout ça. Je pense que c'est réellement tout ce que j'ai enfoui durant 40 ans. J'ai découvert que j'avais une sexualité certainement plus développée que ce que je pensais, qu'il y avait des actes qui pouvaient avant me sembler... je sais pas quel mot mettre. Celui qui me vient me plaît pas, mais sale. Enfin, alors que pas du tout.
Et vous avez eu des orgasmes avec Fabrice ?
Ben, je ne sais pas. Des gémissements, oui. Énormément de plaisir, oui. Pas que du plaisir clitoridien. Ou... Enfin, plaisir, ouais. Vraiment. Mais je sais pas si j'ai eu d'orgasme. Je sais pas.
Vous en avez eu avant ?
Ben, je sais pas. Je me vois pas être dans une sexualité aussi libre que celle vers laquelle Fabrice voulait me conduire, c'est-à-dire de pouvoir avoir une sexualité peut-être plus par pulsion. J'ai vraiment besoin de la relation à l'autre. C'est encore un peu fragile à ce niveau-là. J'ai voulu tester d'ailleurs. j'ai rencontré quelqu'un parce que je m'étais réinscrite sur les sites de rencontres et sur quelqu'un sur Adopt et je me suis dit bon ben je vais aller tester, je vais aller faire un exercice, comme faites une formation, vous apprenez quelque chose, puis vous allez mettre en pratique pour voir s'il faut corriger ou pas. C'était une cata totale, catastrophe totale. Mais vraiment, j'en ai pas dormi, j'en ai vomi pendant plusieurs jours. Ouais, Non, c'est pour ça que je suis pas encore... En tout cas, je suis pas prête pour ce type de sexualité à aujourd'hui. Voilà. J'ai pas cette liberté-là encore en moi. Cet accompagnement, ça aurait été aller avec l'autre pour aller à la rencontre de moi et pour m'aimer. Voilà.
Alors, je m'appelle Ina, j'ai 33 ans et je suis artiste. Vers l'âge de 30 ans, j'ai commencé à vouloir tester des choses du point de vue sexuel parce que j'étais en couple depuis l'âge de 22 ans avec la même personne avec qui je m'entends très bien, mais je me rendais compte que j'avais un petit peu perdu contact avec une partie aventureuse et expérimentale de moi-même. Et on a ouvert notre relation. Et moi, j'ai commencé à rencontrer des hommes. J'ai trouvé mon compte pendant quelques mois avec plusieurs partenaires. Mais revenait cette idée que j'aurais envie d'une sorte de kiné du sexe où je pourrais aller, qui me ferait ce qu'il me faudrait, et je libérerais des tensions et je repartirais 45 minutes, voire une heure après, détendue, pleine de plaisir, ayant crié... Et ça restait un peu un fantasme comme ça, d'aller voir un professionnel comme on y va dans d'autres secteurs de la santé. Et puis l'idée a fait son chemin jusqu'à ce que je me décide à tenter l'expérience d'un escorte. Après, bon, la quête du spécimen en question a été assez compliquée. Oui, j'ai eu des échanges téléphoniques vraiment douteux avec des mecs... dont je comprenais qu'il déjà n'était pas vraiment hétéro, ce qui n'est pas un problème en soi. Moi-même, plutôt un homme bi m'aurait bien plu. Mais oui, des hommes qui me disent qu'ils ne font pas de cuni. Parfois, on se disait, on voyait le type qui tente le coup, mais sans expérience. Ou alors, il y a les accompagnateurs qui veulent bien vous accompagner, mais ils se laissent la discrétion de coucher ou pas en fonction de si on leur plaît, ce qui est un peu étrange. Moi, j'avais envie de rencontrer la personne directement dans un contexte intime. Non, je dirais que finalement, le garçon que j'ai rencontré a été celui dont l'annonce m'a paru la plus, disons, de bon goût. Elle disait sensible et sauvage, ce que je trouvais des adjectifs assez rares dans ce contexte que j'avais vu nulle part. Les photos étaient assez classe. Je me suis dit, c'est lui, quoi, bingo. Alors, je lui ai d'abord envoyé un long mail où je lui expliquais un peu où j'en étais, c'est-à-dire que j'avais du mal à être sujet de ma sexualité et que c'est ça que j'avais envie d'éprouver avec lui. Bah, je me suis dit, bon, il faut que je remette la machine en marche, il faut que je me retrousse les manches, il faut que je m'approprie mon plaisir. Et donc, il se trouve que oui, j'ai même photographié mon sexe et je l'ai envoyé. Et il était très sex-positif. Donc, j'ai fait le trajet à pied jusqu'à l'hôtel et la chambre donnait sur la rue et je lui ai demandé de se poser... devant l'hôtel pour que je le reluque. Donc il est venu, il a gratté à la porte et là, c'était parti le décompte des 3 heures, quoi. Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup été consciente du temps qui passait. Il y avait d'ailleurs une église à côté qui sonnait les heures. En fait, qu'est-ce qui se passe dans une chambre pendant 3 heures entre deux personnes qui vivent quelque chose de l'ordre de l'électricité sexuelle? C'est pas très différent de ce qui se passe entre amants en général. Rien de plus, hormis que c'est moi qui décide et il m'a pas choisi. Et ça, je me suis rendu compte que ça fait toute la différence parce que quelque part, je pense que tout du long, j'ai essayé de chercher comment je lui plaisais. Et que ce repère-là que j'ai eu toute ma vie, de chercher à plaire, ben là, c'était clairement un handicap dans cette situation-là. Et ça, ça m'a fait sentir triste. À un moment, j'ai pleuré vraiment, vers la fin d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « Ah, ben on aurait dû commencer par ça !» Et même quand je lui expliquais mon désarroi et le fait que je peinais, il me disait « Mais c'est pas grave, on est là pour... » C'était presque éducatif, tu vois. Mais dans l'instant, j'étais paralysée par le manque de repères de cette situation où c'est moi qui ai moteur de la situation. Mais c'est ça que je cherchais, c'était de me mettre dans cette situation. Donc, j'ai vraiment réussi à vivre ce que je voulais vivre, dans le sens où d'être paralysée, ça m'a appris sur ma façon, sur où j'en étais sexuellement avec les hommes.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce que vous avez fait quand il est parti?
Bah, il a pris l'enveloppe que j'avais laissée avec l'argent, il m'a dit merci. Ah, c'est drôle, il s'est rincé la bouche. Parce que je pense que c'est un réflexe voilà, d'hygiène. Il s'est un petit peu comme ça, refait une beauté. Il est parti et j'étais un peu entamée après, un peu mélancolique, à cause de cette solitude vraiment que j'avais ressentie, qui a toujours été, mais que je déguisais dans une sorte de... disponibilité à l'autre dans mes relations avec les hommes auparavant. Et il y a eu un avant et un après, vraiment clairement.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
C'était Les Clientes du Sexe de Pauline Verdusier, réalisée par Cécile Lafont avec un coup de main d'Anne-Laure Chanel et diffusée pour la première fois le 24 avril 2019. Merci à Pascal, à Nathalie et à Ina, à l'escorte Charles et à l'accompagnant sexuel Fabrice ainsi qu'à Jeanne Copé et Justine Calais. Sachez que depuis la première diffusion de cette émission, Nathalie a rencontré quelqu'un mais elle s'est séparée et Charles, son escorte, est devenu son confident. Pascal, elle, après son témoignage, eh bien, elle a écrit un livre sur l'accompagnement sexuel et elle développe un cabinet de sexothérapie. Quant à Ina, eh bien, elle nous dit que c'est une expérience très marquante dans sa vie affective et sexuelle.
I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself,